Voici la nouvelle émission de la classe Média du collège Marcel Pirel.
Bonjour à tous, nous sommes les élèves de la classe Média du collège Marcel Pirel. Nous accueillons aujourd'hui Jo Vitek, écrivaine de plusieurs livres comme Une fille d'eux ou encore J'entends des pas derrière moi, que nous avons lu. Jo Vitek est avec nous aujourd'hui parce qu'elle a été invitée par la médiathèque au salon du livre Feuilles d'automne de Marvejols. Nous avons quelques questions à vous poser sur votre métier et vos livres. Je laisse la parole à Alice qui va vous poser des questions sur votre métier.
Êtes-vous devenue autrice grâce à une passion de longue date ou c'est une voie que vous avez trouvée à l'âge adulte ?
Ben bonjour à tous et à toutes. Je suis devenue autrice à force d'écrire. En fait, j'ai commencé par écrire parce que j'étais une enfant très timide et hypersensible, je crois. Donc, le fait d'écrire m'a tout de suite calmée et m'a permis de mieux me comprendre. Et finalement, l'écriture de fil en aiguille ne m'a jamais quittée et s'est un petit peu organisée. Donc, j'ai fait plusieurs métiers autour de l'écriture, puisque j'ai été responsable de communication, j'ai fait du scénario, de l'analyse de scénario, et puis du journalisme, voilà, de fil en aiguille. Et l'écriture, ensuite, est allée vers la littérature.
Comment qualifieriez-vous la difficulté de votre métier ? Un métier plutôt dur ou facile ?
C'est un métier très difficile, hein, sauvage. L'écriture, c'est à la fois une introspection totale, puisqu'on est en soi, seul. Hein, c'est un métier de solitaire, comme les navigateurs, navigatrices solitaires. Donc, il y a des moments très difficiles, ouais, de ne pas savoir. On peut pas, on n'a pas de collègue de bureau, tu vois. Je peux pas dire qu'est-ce que t'en penses. Et puis, on veut pas. La plupart des écrivains, écrivaines, on veut être la seule personne à aller au bout de son travail et de sa proposition. Donc, il y a des jours il y a beaucoup de doutes, beaucoup de peines à écrire, mais il y a aussi des joies. Mais je trouve que plus, je peux dire aujourd'hui que c'est un métier difficile parce qu'il me semble que plus j'avance, plus je le trouve difficile. C'était peut-être plus simple. Au début, je ne sais pas. Mais c'est pas un métier simple, vous le savez, quand on écrit, ça ne suffit pas. Écrire, c'est aussi développer, couper, revenir, réécrire, jeter beaucoup. Il n'y a qu'une seule façon d'apprendre à écrire, c'est de ne pas hésiter, de jeter des brouillons encore et encore pour s'améliorer. Donc, c'est l'école de la patience.
Quand vous écrivez un livre, vous commencez plutôt par tout imaginer ou vous écrivez en fonction de ce qui vous vient le jour au jour ?
Les deux. C'est-à-dire que c'est comme un voyage, on le rêve, hein. Si on partait toute là en voyage, on le rêverait, est-ce que je pars en hôtel, est-ce que je prends le sac à dos, il y a plein de façons de voyager, un livre c'est pareil, est-ce que c'est un roman plutôt, je vois, conséquent, qui va être pour les grands ados, ou est-ce que je pars sur une histoire plutôt pour les, voilà, avec un même sujet, je pourrais écrire aussi une histoire pour les primaires, pourquoi pas, et après, donc je vais inventer mes personnages, l'univers, ce que je veux un petit peu dire, peut-être je vais avoir comme ça une architecture qui va se mettre en place, et puis dès que je commence à écrire, c'est comme quand tu commences le voyage, tu es perturbé. Tu as une autre idée. Et c'est là que moi je dis que l'écriture c'est le sang, quoi, c'est le sang du roman. C'est là que ça commence à vivre, ça respire, ça coule, ça vit, et ça tu pouvais pas le prévoir. Donc parfois t'as fait un plan où tu dis bah, ça sera une scène de fin qui tout à coup devient le chapitre 3. Et c'est vraiment l'écriture qui t'amène cette l'imprévu qui est nécessaire dans l'écriture, bien sûr, sinon je m'ennuierais à écrire si tout était prévu.
Et est-ce que c'est difficile de créer un titre ou ça vous vient avant l'histoire ?
Le titre, alors quand tu ouvres un document Word, comme n'importe qui, vous l'apprenez, hein, enregistré sous pour ne pas perdre ton document. Donc tu es obligé d'avoir un titre. Parfois, ce n'est pas le bon. Je le sais. Et parfois, je ne trouve pas mieux que ce mauvais titre, mais je vais au bout. Je me dis, je trouverai avec. Alors quand je n'ai pas le titre, je le trouve ensuite avec l'éditeur ou l'éditrice. Et on s'amuse à faire des listes pour trouver le bon titre ensemble. Ça, c'est quelque chose que je peux partager avec l'éditeur ou l'éditrice. Et parfois, j'ai le titre tout de suite et il me semble bon et ça sera le titre final. Donc ça dépend d'un roman à l'autre.
Et il y a des livres en particulier pour lesquels vous avez dû débattre du titre ?
Oui, par exemple, j'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle, qui est un roman autour du mariage forcé. J'avais mis un titre, mais mauvais titre, qui était « Je suis leur fête », en fait, comme si c'était elle la fête. de tous les gens qui veulent la marier. Mais c'était un titre incompréhensible. Et je le savais, mais je n'avais pas mieux. Et je ne m'en suis pas occupée. Et finalement, avec François Martin, l'éditeur d'Actes Sud, on a trouvé le titre à l'intérieur du roman. Souvent, on va chercher. Et là, c'était parfait. C'était une phrase qui convenait parfaitement. Après, Peur Express, ça a été Peur Express dès le début. Et je n'ai pas trouvé mieux. Personne. Enfin, ça se passe dans un train, tout le monde a peur. Voilà, titre parfait, Peur Express. Mais c'est amusant, les titres, de savoir à quel moment... C'est, et en même temps, ça dit beaucoup quand tu poses un titre. Ça te pose quelque chose pour toi. Mais il ne faut pas trop s'y attacher. Ça a été, dans l'histoire des écrivains, pas mal de batailles entre les écrivains et leurs éditeurs quand ils ont dû abandonner un titre. Mais moi, ça va. Ça s'est bien passé jusqu'à présent. Merci.
Merci pour toutes tes réponses. Je rends la parole à Eva.
Merci Alice. Nous nous sommes intéressés à son métier et maintenant nous allons nous intéresser au livre que vous avez écrit. Je vais passer la parole à Zélia.
Bonjour. Bonjour. Du coup, moi je vais enchaîner sur quelques questions sur vos livres et en particulier, elles ont réalisé leurs rêves et une fille d'eux. On va commencer par 50 femmes qui ont réalisé leurs rêves. Donc c'est un livre que vous avez écrit avec Philippe Godard. Ça raconte la vie de plusieurs femmes, comme Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Louise Brooks ou Maria Montessori. Ces 50 femmes qui n'ont pas suivi le chemin qu'on leur avait tracé. Pourquoi avoir voulu parler de ces femmes ?
Merci d'avoir choisi celui-là, ça me fait plaisir, parce que c'est un livre documentaire que nous avons écrit en 2012 avec Philippe Godard. Et à cette époque, il faut revenir en arrière, il n'y avait pas énormément encore de portraits au féminin. Ces héroïnes-là, invisibles, qui reviennent de plus en plus aujourd'hui dans nos rayons en librairie et qui sont... on se soucie, on raconte la vie et on met à l'honneur. Il a fallu du temps quand même. Et nous étions un petit peu en avance avec Philippe Godard. Donc je suis un peu fierotte, il faut l'être parfois, de ce travail en amont. Voilà, donc il a fallu, on s'était dit, ben voilà, on va faire des portraits. En classe, je m'apercevais souvent que les jeunes personnes ne connaissaient pas de femmes importantes au féminin. À part Jeanne d'Arc et Olympe de Gouges, bon, on en a deux, hein, Catherine de Médicis peut-être. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Et donc ça fait peu sur des millénaires d'histoire des humains. Et c'était un petit peu l'idée. Donc on est parti, nous, du 20e et 21e pour rester dans quelque chose de très contemporain. C'était difficile d'en avoir 50. On voulait aussi à l'international et on est allé chercher dans différentes disciplines, puisqu'il y a des sportifs, des intellectuels, des femmes de la mode ou des stars du cinéma. Ça, voilà comment on a travaillé avec Philippe.
Bon, et du coup, vous avez fait plusieurs... Vous avez trouvé plus que 50 au départ ?
Oui, je crois qu'on en avait 150 au départ. Après, on a vraiment discuté tous les trois avec l'éditrice à La Martinière. Et puis finalement, on est allé sur nos coups de cœur aussi à des moments. On a imposé nos coups de cœur. Alors moi, je ne me souviens plus parce que ça fait un petit bail maintenant. Mais... et puis voilà, finalement, on est parvenu avec Philippe à se mettre d'accord. Et on a dit que celle-là, il y avait des plus jeunes, il y avait des inconnus, des très connus. On a mélangé aussi tout ça.
Ok. Du coup, on va passer sur une fille d'eux.
Oui.
Du coup, c'est l'histoire de la jeune Anna qui est exclue par les autres enfants. Pourquoi ? Parce qu'elle est la fille d'une prostituée. Et du coup, elle va se réfugier dans la course à pied et va faire une rencontre inattendue. Pourquoi avoir choisi de parler de la prostitution ?
Oui, c'était un peu culotté de ma part, d'autant que ça s'adresse à la jeunesse. C'est vraiment un livre que j'ai écrit pour la jeunesse, donc je rassure les parents. C'est à hauteur d'adolescents. Ce qui n'est pas simple avec un sujet comme celui-là, très tabou. C'est pourquoi elle n'est pas prostituée, elle est fille de prostituée. C'est venu en regardant un film. Alors vous voyez, on peut avoir une idée de roman au cinéma un dimanche après-midi, où je n'étais censée pas travailler. Et c'était en regardant The Immigrants de James Gray, un film que vous pouvez regarder d'ailleurs, sur deux Polonaises qui me touchent, puisque mes grands-parents étaient Polonais, qui arrivent à New York et qui, sur l'île d'Ellis Island, où sont triés les immigrants à la fin du 19e siècle, pour savoir s'ils pourront rester aux États-Unis ou pas, sa sœur est malade, donc pour garder la possibilité de rester à New York, elle doit trouver de l'argent. Et elle ne parle pas un mot d'anglais. Et c'est un homme qui est dans l'ombre qui va arriver, qui va dire « j'ai une solution pour toi » et il va la prostituer. Et là, j'ai un cri de femme à l'intérieur. Je suis restée assez traumatisée, je ne sais pas. J'ai dit « il faudra que je fasse histoire pour les jeunes générations de dire combien les hommes ont abusé du corps des femmes encore, et que pour certaines, la seule possibilité de survivre, et encore aujourd'hui dans les camps de migrants, en Libye particulièrement, la seule façon de manger ou de donner du lait à leurs enfants, c'est de se prostituer. Et la problématique n'est pas des femmes qui se prostituent, mais bien des hommes qui, pour quelques poignées de centimes, profitent du corps des femmes. Donc c'est ça la prostitution, c'est une honte, hein, mais la honte n'est pas du côté des femmes, la honte est du côté du masculin qui va faire traitement et commerce de ce corps. Et je trouvais ça super, comme beaucoup de sujets de société difficiles, d'essayer de travailler pour voir comment je peux, sans vous choquer davantage, vous amener à réfléchir sur ces sujets-là pour demain. C'est la grande force de la littérature jeunesse. Mon travail est délicat parce qu'il ne faut pas que je vous choque plus. Et là commence mon travail. Et je trouve ça passionnant de trouver les moyens de, que ce soit tout à fait... vous puissiez le lire sans être davantage choqué que le sujet. J'espère, je ne sais pas si vous l'avez lu.
Oui.
Si, peut-être que...
Ah oui, moi, il m'a beaucoup plu.
Voilà, je ne pense pas que ça ajoute, au contraire, ça adoucit. Hein, on se dit, ah mais ok, d'accord. Et puis elle court, parce que, pourquoi elle court, Anna? Parce qu'elle veut muscler son corps. Elle, on ne va pas la piétiner, hein, elle le dit. Mmh. Elle va boxer, quoi, s'il le faut, mais elle gagnera sa vie. Et elle veut surtout, qu'est-ce qu'elle demande, cette jeune fille? Elle demande du respect et le droit au respect, parce qu'elle, elle n'a fait que naître, elle n'a rien commis, de toute façon, elle.
Et du coup, ce livre, il parle aussi du harcèlement.
Oui.
Parce que Anna se fait harceler par les autres élèves. Mais qu'est-ce qui vous a amené à traiter ce sujet également ?
C'est toujours... c'est un sujet qui est très présent aussi dans mes romans. La domination, quelle qu'elle soit, hein, je parle de ça. Hein. Je suis vraiment contre toute forme de domination. Donc, pourquoi tout à coup une personne va essayer de dominer une autre et de l'user comme ça à répétition? Pourquoi? Pour un pouvoir ou pour s'approprier les pouvoirs de l'autre, hein, c'est ça en général le harcèlement. Ou simplement pour détruire quelqu'un au lieu d'essayer de trouver en soi quelque chose, préférer détruire. C'est au cœur de l'histoire du monde, donc il y aura forcément ça dans mes romans, mais pas toujours systématiquement. Mais par rapport là au fait de se moquer sur une fille de prostituée, j'ai rencontré une femme qui avait été fille de prostituée pour ce livre, et c'est elle qui est venue vers moi. Je voulais pas au départ en rencontrer parce que je me suis dit la personne va vouloir que je raconte son histoire et pas une autre, et moi je voulais vraiment faire roman autour de ça. Et cette femme, elle avait 60 ans, elle en pleurait encore du jugement des autres. Vraiment, elle avait tellement été maltraitée alors qu'elle n'avait pas été élevée par sa mère. Mais ça se savait dans les villages qu'elle avait été, que sa mère avait été prostituée. Et rien que ça, ça avait fait qu'elle avait été très maltraitée et très mal considérée. Parce qu'on avait su que sa mère avait été autrefois prostituée. Donc on voit que ça se transmet aussi, la haine, et c'est souvent la haine des femmes qui est souvent supérieure à la haine envers ce qu'ont pu commettre les hommes. Il y a toujours une haine des femmes en masse, comme ça, dans la rumeur, qui est très violente. Et je pense que les générations futures, vous êtes des filles là autour de cette table, jeunes, il y a aussi des garçons, mais ils vont venir après interviewer, mais les garçons aussi, c'est vraiment une génération, et c'est peut-être la première qui va peut-être pouvoir s'interroger vraiment sur cette discrimination faite aux femmes dans tous les pans de la société. Et c'est pour ça que vous avez une grande chance d'être du 21e siècle.
Du coup, est-ce que vous avez déjà eu des remarques ou des critiques sur le titre de ce livre ? Qui est original.
Oui, qui dit bien ce qu'il veut dire. Une fille de, ça aurait pu être pire. Hein, ça aurait pu être une fille de P, point de suspension. C'était ce que je voulais au départ. C'était un peu trop frontal pour l'éditeur. Là, pour le petit coup, on a changé. Donc, on a mis une fille de, point de suspension. Une fille de, point de suspension, j'aime bien parce que très longtemps, les filles n'avaient pas du tout... D'ailleurs, dans les archives du féminin, c'est très difficile de trouver des traces parce qu'elles ne viennent pas signer aux naissances des enfants, elles ne signent pas au mariage, elles ne signent pas quand elles perdent quelqu'un. Autrefois, les filles ne signaient jamais, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas d'identité citoyenne. Donc, une fille de, c'est intéressant parce que ça peut être une fille, oui, de prostituée, mais ça peut être simplement la fille de son père ou la fille de. Autrefois, les femmes étaient épouses aussi, elles étaient filles puis épouses. Elles n'avaient pas d'identité propre. Donc, je trouvais que ça disait pas mal, une fille de. Mais ça va, ça reste assez ouvert pour qu'on puisse ne pas trop savoir de quoi il s'agit, et c'est bien, peut-être. Il y a la quatrième de couverture qui aiguille ensuite.
Merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et bien, du coup, je repasse la main à Eva.
Merci, Zélia. Alors, merci d'avoir répondu aux questions par rapport à vos livres. Maintenant, on va passer à un troisième livre et ce sera Liam qui va vous poser des questions.
Bonjour, je vais vous parler du livre En un tour de main. C'est l'histoire d'un grand magicien qui est interviewé par une journaliste qui lui raconte sa vie. Il était un petit garçon d'une famille pauvre. Un jour, un cadeau lui donne envie de devenir magicien. Et un personnage, le capitaine, va l'y aider. Pourquoi voulez-vous parler de magicien ?
Quand j'ai écrit ce livre, mon fils avait 10 ans, il a aujourd'hui 27 ans, donc ouais, ça fait un petit bout de temps. Pourtant, ça ne me semble pas si vieux, mais bon. Et donc, il faisait beaucoup de tours de magie. Il était passionné par la magie. Et c'est lui vraiment qui m'a amenée dans ce monde des magiciens. Je suis allée au musée de la magie, vraiment comme je le décris au début du roman. Et j'ai découvert une discipline incroyable. Je trouve ça très poétique, la magie. Je suis assez fascinée par les prestidigitateurs et magiciens, magiciennes. Donc voilà, comme c'était lui, c'est pour ça que mon héros s'appelle Matt, parce que mon fils s'appelle Mathieu. C'est un petit clin d'œil à mon fils, ce livre.
Merci. Vous avez écrit un autre livre, « Il n'y a pas d'héros dans ma famille. Ceci est l'histoire d'un petit garçon modeste. Est-ce que la pauvreté est un sujet important pour vous ?
Les inégalités sociales, la discrimination sociale, comme on dit, c'est-à-dire traiter plus mal les gens qui ont moins d'argent, ça je trouve... le fait que on n'aide pas les gens qui ont du mal à s'en sortir, voilà. Oui, c'est important pour moi, je pense, parce que je viens d'une famille ouvrière, donc il n'y avait pas beaucoup d'argent chez moi, il y avait beaucoup de culture, puisqu'on avait des livres, puis on allait beaucoup à la bibliothèque. On réfléchissait aussi, on avait le droit de s'exprimer beaucoup, mais voilà, il n'y avait pas... Il n'y avait pas beaucoup d'argent et j'ai été élevée dans des écoles où, parce que j'étais bonne élève, on m'a mis dans des écoles, comme on dit, d'excellence, où là, toutes mes copines étaient riches. Je dis copines parce que c'était non mixte. Et donc, j'ai connu, enfant et adolescente, cette différence entre, comme mon héros mot, entre une famille où il n'y a pas trop d'argent et ces familles où il y a énormément d'argent, où moi, j'avais honte presque parfois de manquer d'argent dans ma famille. Et donc, je peux largement en parler. Ouais, ça fait vraiment partie de mes... Je trouve qu'on ne donne pas assez la parole aux classes sociales qui n'ont pas trop d'argent, moyennes. On est encore dans cette domination de l'argent et ceux qui ont beaucoup d'argent ont beaucoup la parole. C'est aussi pour ça que je fais des portraits. Tu as vu, je fais des portraits d'ados, je fais des portraits de femmes des quartiers. J'aime bien donner la parole aussi à ceux qui ne sont pas forcément... qui n'ont pas le pouvoir des médias ou le pouvoir de la liberté d'expression.
Merci. Je passe la parole à Eileen.
Bonjour. Moi, je vais vous parler du livre « J'entends des pas derrière moi ». C'est l'histoire d'une fille qui sort de soirée sans sa meilleure amie car elle est partie avec quelqu'un d'autre. Elle a peur, elle est seule, elle marche, elle entend des pas derrière elle. Un homme la suit, une voiture s'arrête à son niveau, elle a peur, elle est terrorisée, elle se dit dans sa tête qu'elle va se faire tuer, qu'elle est en danger. Elle veut rentrer chez elle, il y a beaucoup de femmes qui se font agresser dans la rue, c'est pour ça qu'elle a peur. Pourquoi avez-vous décidé de faire ce livre ? Est-ce pour lutter contre les agressions ou pour nous transmettre un message ?
Dans toutes les histoires, c'est pas des messages, mais c'est des petits... Comme si on zoomait sur un sujet de société. Oui, tu as très bien résumé. Mon héroïne a peur dans la rue, alors qu'elle a peur de se faire maltraiter dans la rue, alors qu'on sait que la plus grande des maltraitances pour les filles, c'est à l'intérieur des maisons. Donc il y a quelque chose qui est, il y a du mensonge, de l'ordre du mensonge. Si on ne laisse pas la place dans l'espace public en tant que femme et fille, et encore moins la nuit, c'est volontaire. Et d'ailleurs, le prénom de mon héroïne m'échappe. Tu peux me le redire ?
Dina.
Oh, merci. Non mais tu vois comme quoi. Elle ne s'appelle pas Dina par hasard, parce que Dina dans la Bible, c'est celle qui sort. Dans le livre de la Genèse, c'est celle qui sort. Donc elle sort, et malheureusement, parce qu'elle est sortie, alors elle se fait enlever, maltraiter, celui qui l'enlève veut ensuite l'épouser, la famille de Dina dit oui, et en fait, les frères de Dina, ça va être un massacre au mariage, ils vont tuer toute la famille du prince qui l'avait enlevée et maltraitée, pour se venger, bien sûr. Donc on disait aux jeunes filles, et très longtemps on a dit aux jeunes filles, ne fais pas comme Dina, malheureuse, reste à la maison, ne sorte surtout pas. On aurait dû lui dire... Sors si tu veux, mais par contre, les garçons, on n'agresse pas une fille comme ça dans la rue, en fait. Tu vois, c'est ça, en fait, l'histoire du masculin et du féminin. C'est, aujourd'hui, ça se rejoue. Donc ça, j'ai voulu aussi interroger les filles et les garçons sur pourquoi les filles ont peur dehors. C'est pas parce qu'elles craignent vraiment une attaque, la probabilité est là, mais elle est faible par rapport à l'attaque réelle du féminin, elle est à l'intérieur. Généralement, les filles qui sont agressées sexuellement, par exemple, connaissent leur agresseur. Donc ça se passe pas dans la rue avec un inconnu. Hein. Donc il y a un mensonge. Donc je voulais vous faire réfléchir à ce mensonge. Aujourd'hui, mon fils qui est, je vous l'ai dit, il a 27 ans, on a fait une lecture de ce texte ensemble. Et c'est chouette parce qu'il me dit, maman, maintenant, depuis ce texte, quand je rentre de concert le soir dans Toulouse et que j'ai ma guitare et que peut-être par hasard, je me trouve derrière une fille, mais par hasard, je lui veux pas de mal, eh bien, il change de trottoir pour ne pas lui faire peur. Il a compris que si la fille a peur de lui à 2h du matin, en pleine nuit, c'est pas parce que Mathieu est un agresseur, pas plus gentil que mon fils, et elle ne le sait pas, mais c'est pas parce qu'elle pense que c'est lui le méchant. C'est l'idée d'un garçon qui lui sauterait dessus en pleine nuit. C'est cette idée-là que nous, filles, nous devons arrêter d'avoir et que les garçons doivent nous aider à ne plus avoir. Et c'est vraiment au cœur de ce texte. Donc je suis très fière de mon fils qui change de rue pour dire à la fille, t'inquiète pas, je ne suis pas ce genre de garçon-là. Je trouve ça très joli et très attentif. Et je pense que là, il y a quelque chose de fort au niveau de l'éducation des garçons. Et pour que le monde aille mieux et qu'on soit tous dehors, si on en a envie, en tout cas avec les mêmes craintes, qu'on soit une fille ou un garçon.
Est-ce que l'histoire, elle se passe à Paris ?
Oui, elle pourrait se passer à Paris. Je dis pas, je nomme pas la ville, mais j'ai été adolescente en banlieue parisienne et j'ai été jeune personne à Paris. Donc j'ai connu les trouilles de parisienne la nuit. J'ai connu.
Est-ce que le but de ces livres était pour nous sensibiliser ?
Oui, bien sûr, vous sensibiliser, mais plus encore, vous donner quelques clés de réflexion. C'est-à-dire un roman, souvent, on en parle avec ses enseignants ou avec les bibliothécaires, justement. Hein. On en parle avec des adultes quand on aime lire, ou on en parle entre copines. Et se dire, bah, tiens, qu'est-ce que t'as pensé ? Pourquoi elle a peur ? Est-ce qu'elle est folle dingue, cette fille, d'avoir peur comme ça ? Ou est-ce que nous, on a tout eu peur ? Une fois, j'étais avec une classe de seconde et on avait demandé, c'était des secondes pro, donc il y avait autant de garçons que de filles. J'avais demandé à tous ceux qui étaient là s'ils avaient eu peur dans la rue le soir. Et les filles à 100% et les enseignantes aussi avaient levé la main. Et elles n'avaient pas eu peur qu'on leur vole leur porte-monnaie, elles avaient eu peur de l'agression sexuelle. Et ça, les garçons n'ont pas peur de ça. Et il est temps aujourd'hui de pouvoir se le dire tranquillement, sans stigmatisation des garçons ni des filles, hein, se dire mais c'est comme ça et il faut qu'on apprenne à se le dire pour être beaucoup plus en sécurité en fait, les uns avec les autres.
D'accord. Vous pouvez nous parler du livre Chambre d'adolescente, car on sait que vous avez beaucoup travaillé dessus.
Chambre adolescente, c'était l'envie d'aller écouter votre génération, la Gen Z, qui est une génération particulière, puisque vous êtes la génération toute numérique, vous êtes née avec le numérique, et vous êtes née avec la Covid en plus. Donc c'est une génération qui est très différente des autres. Et ça m'intéressait de voir, de discuter vraiment avec des personnes âgées de 12 à 19 ans. Et j'ai trouvé que c'était chouette de sortir de l'école, parce que souvent je vous rencontre à l'école, comme aujourd'hui. Mais je trouve que chez soi ou ailleurs, et puis en seul à seul, on dit des choses différentes. Donc je voulais vraiment être curieuse et interviewer une jeune personne entre 12 ans et 19 ans, comme si c'était une personne extraordinaire. Et j'ai pas choisi ces personnes, donc ça veut dire que tout le monde est extraordinaire et que j'aurais pu vous aussi vous interviewer 6 à 8 heures et parler avec vous. Donc dans leur chambre, alors je suis pas arrivée dans les chambres comme ça, hein, on a choisi la chambre, c'est un beau lieu, et c'est souvent un petit chez-soi à l'adolescence, je sais pas à quoi ressemblent vos chambres, mais déjà on commence à mettre les posters qu'on aime bien, on demande aux parents un petit truc de déco qu'il n'y a pas forcément dans la maison, ça commence à ressembler à l'appartement qu'on pourrait avoir plus tard, notre chambre à l'adolescence, et ça c'est beau. Et donc c'est pour ça que j'ai travaillé avec une journaliste qui est géniale, une photographe, Juliette Masse, qui elle est venue avec moi, on a discuté tous les trois ensemble, adolescents, nous deux, voilà, dans les chambres, avec la bien sûr des parents ou bien sûr des éducateurs, puisqu'on a des jeunes qui ne sont pas avec leurs parents. Il y a des jeunes qui viennent de Guinée, des jeunes qui viennent du Pakistan. Donc eux, ils sont venus à pied, ils ont tout quitté. Donc ils nous racontent aussi leur quotidien. Et c'est passionnant, ça a été passionnant. Donc à partir de là, on en a fait des portraits littéraires pour moi, des portraits sonores, puisque je les ai enregistrés à la radio, comme vous faites là. Et Juliette l'a monté avec la voix des jeunes. Et donc, vous pouvez les écouter, c'est sur les plateformes, chambreadolescente.fr, chambreadolescente sur les plateformes, c'est en libre écoute. Et ensuite, Juliette a fait de la photographie et on a fait un livre et 6 expos autour de ces chambres adolescentes. Donc, c'était un gros projet et un projet qui m'a un peu sorti du livre puisque c'est transmédia. J'ai fait bien autre chose qu'un livre avec ce projet. C'était assez passionnant et ça m'a apporté beaucoup sur la compréhension. Et je trouve que c'est intéressant et même primordial pour une autrice qui écrit pour votre âge, pour cette jeunesse-là, d'aller vous rencontrer, d'aller vous écouter. Ça a été vraiment, j'ai appris beaucoup.
Merci à vous, Jovitec, d'avoir répondu à nos questions. On a eu beaucoup de réponses, des informations. Merci aussi à la classe média d'avoir posé des questions. Vous nous avez appris des choses, vous nous avez donné envie de lire vos livres. Merci à vous. Merci aussi à la bibliothèque d'avoir invité Jovitec.
Merci à vous pour votre curiosité.